Vendredi 11 juillet 2008. Mourir n'aura pour moi rien de troublant. Chapitre 23. Botte secrète. 2h06, rue du Père Adam. Daniel Lovici attendit que l'ivrogne disparaisse dans le passage des anciens moulins pour le suivre. Tout se déroulait parfaitement. Le type était seul. Il ne semblait pas en état de se défendre. Ça allait être un jeu d'enfant. Il repensa aux 10 billets de 500 € dans la poche de Ramphastos. Il ressentait en lui le manque, cet insoutenable manque quand il songeait à toute cette drogue à portée de main, dans la poche de ses marins. Il ne fallait pas qu'il rate son coup. Il lui fallait cet argent. Ramphastos marchait devant lui, à moins d'un mètre. La ruelle était déserte. Personne ne passait jamais par là. C'était une impasse à cette heure-là. Mais il ne fallait pas prendre de risques inutiles. Il fallait faire vite. Et surtout, ne pas hésiter à se servir de son arme. Lovici serra son poignard et posa sa main sur l'épaule de l'ivrogne. Lorsque Ramphastos se retourna, Lovici avança brusquement la lame jusqu'à sa gorge. « Ton fric, tout de suite !» D'un geste désespéré, maladroit, le vieux marin tenta de repousser son agresseur. Mais il était trop lent. Lovici se tenait sur ses gardes. La lame du poignard s'enfonça entre le cou et l'épaule de Ramphastos. Le vieux marin poussa un cri rauque. « Ta gueule! La prochaine fois, c'est le ventre que je te crève! Ton fric, connard !» Lovici pensa à ce moment-là que ce vieil alcoolique le connaissait, qu'il l'avait déjà croisé le soir dans la rue. Il serait capable de le reconnaître ensuite. Une fois qu'il aurait récupéré le fric, il n'aurait pas le choix. S'il ne voulait pas avoir tous les flics sur le dos, il allait falloir qu'il termine le travail, qu'il crève ce vieux porc. Il espéra aussi que le cri n'avait alerté personne. De toutes les façons, qui pouvait bien passer à cette heure dans cette ruelle? Dans moins d'une minute, tout serait terminé. Il se pencha vers le corps recroquevillé, tremblant, de Ramphastos, lorsqu'une voix féminine troua le silence. « Il y a un problème ?»« Merde, une passante !» Apparemment, elle n'avait pas repéré qu'il portait une arme. Elle n'avait rien vu. Elle avait simplement dû être alertée par le bruit. Lovici ne paniqua pas. Il fallait la laisser s'approcher tout près, puis la planter, elle aussi. Il n'avait plus le choix. La fille s'approcha. Il la reconnut. C'était la fille en robe rouge qui était entrée dans le Libertalia quelques heures plus tôt. Dommage de planter un si joli petit lot. La fille était à moins d'un mètre de lui. Il sentait son parfum. Le vieux marin, allongé par terre, semblait maintenant à peine conscient. Il serra son poignard. La fille ne se méfiait pas. Elle était là, tout près. Encore quelques centimètres et il frapperait à la poitrine. Il ne pouvait pas la rater. Il y était. La fille le touchait presque sans méfiance. Le bras de Lovici sortit de l'ombre de son manteau et se déplia. « Gaffe !» éructa Ramphastos dans un dernier effort pour rester conscient. Maline bondit instinctivement en arrière. Elle sentit la lame du couteau effleurer son sein. Dans quel merdier était-elle encore allée se fourrer? Elle n'eut pas le temps de se poser d'autres questions. Le type avançait déjà vers elle. Il n'avait pas l'air bien frais, mais il disposait d'un physique imposant. Et surtout, il tenait un poignard. Elle se recula encore. Elle pensa un instant à fuir. Mais fuir où? Elle savait qu'à cette heure, les grilles du passage de l'ancien moulin étaient fermées. La ruelle se terminait en impasse. Hurler? Appeler à l'aide? Elle ne put réfléchir davantage. L'inconnu était déjà sur elle. Il attrapa son bras et Maline sentit une seconde fois la lame de l'arme blanche frôler sa gorge. De tout son instinct de survie, elle lança un coup de pied rageur vers le mastodonte. Elle toucha le bas-ventre. Son agresseur jura, mais le coup ne sembla pas l'ébranler. Ce n'était pas comme cela qu'elle allait s'en sortir. Il faisait au moins le double de son poids. Il lui fallait trouver autre chose. Son agresseur se redressa avec un air sadique de chat qui joue avec une souris. Elle avait au moins gagné quelques secondes. Quelques secondes. Pourquoi faire? Elle fouilla instinctivement dans son sac. Qu'espérait-elle trouver? Elle n'était pas du genre à se balader avec une bombe lacrymogène. Un calepin, un rouge à lèvres, un téléphone. Vite! Trouver une idée et l'autre arrivait! Elle attrapa le dernier objet dérisoire sur lequel ses doigts se posèrent et balança son sac devant elle. Il tomba à plus d'un mètre de son agresseur. « Foutu !» Le type releva les yeux sur la journaliste, écarta le bras comme pour bien lui montrer l'arme avec laquelle il allait lui enlever la vie, dans quelques instants. Maline essaya d'adopter la même attitude, le bras écarté. Sauf qu'au bout de son bras, ce n'était pas un poignard qu'elle tenait. Elle pointait sur son agresseur un stylo plume. Plume en or, hyper résistante, du moins à ce que lui avait raconté son père. En constatant la pitoyable arme de défense brandie par Maline, Daniel Lovici ne put s'empêcher de marquer un petit temps d'arrêt et d'afficher un sourire béat. Immédiatement, Maline sentit la faille. La différence entre les deux armes rendait son agresseur trop confiant. Inconsciemment, il allait baisser sa garde. C'était sa chance. Il lui fallait la saisir. Maline espéra que le taux d'alcoolémie dans son sang n'allait pas altérer ses réflexes. C'était le moment d'activer ses souvenirs. Elle n'était pas entrée dans une salle d'escrime depuis plus de 10 ans, mais elle avait tout de même fréquenté les cercles pendant toute son adolescence. À l'époque, elle n'était pas dans les plus mauvaises. Une feinte de base lui revint immédiatement à l'esprit, la balestra, celle qu'on apprend aux débutants. Avec un peu de chance, son agresseur n'avait jamais débuté. Maline se mit en position de sixte, laissant son adversaire avancer d'un mètre. Son poignard brillait dans la nuit. Maintenant ! Elle bondit alors sur le côté, mais comme le veut une balestra réussie, au lieu de poser les deux pieds à terre en même temps, elle fit un appel sur son pied avant, frappant le plus fort possible le sol de son talon. Comme prévu, Lovici marqua une courte réaction de surprise. Sans réfléchir, Maline coupa sa trajectoire et porta les stocks. La plume en or du stylo s'enfonça dans la gorge de Daniel Lovici. Il poussa un hurlement de douleur et s'effondra. Le sang jaillit. Maline repoussa du pied le poignard tombé au sol. Elle savait que le coup n'était pas mortel si les secours arrivaient vite. Elle savait également que son agresseur n'était pas prêt de se relever tout seul. Sans ménagement, elle lui fit comprendre d'un coup de pied bien placé dans les côtes qu'il n'avait pas intérêt à bouger. Elle appela successivement les services d'urgence et la police, puis se pencha sur Ramphastos, qui avait perdu connaissance. La première voiture de police déboucha dans la ruelle moins de 10 minutes plus tard, en même temps que les secours. L'inspecteur stagiaire Jérémy Mézinguel bondit hors du véhicule accompagné de 3 autres agents. Maline connaissait la plupart des flics de Brizou, mais pas celui-là. Sans doute un nouveau. Elle apprécia moyennement son allure de cow-boy désinvolte et son sourire ironique devant la scène. Après un minutieux examen des blessures de Daniel Lovici et de Ramphastos, Mézinguel s'avança vers Maline, les mains dans les poches de son jean serré. Il ne chercha même pas à rendre discret son regard appuyé sur la robe déchirée de Maline, qui devait offrir d'elle une image particulièrement impudique. « Alors, mademoiselle, on m'a dit que vous étiez journaliste. À ce que je vois, pour arrondir vos fins de mois, vous pratiquez la trachéotomie sans diplôme. » Maline haussa les épaules, fatiguée. Mézinguel lui posa quelques autres questions de routine, puis se pencha pour examiner le poignard de Daniel Lovici, qui avait glissé près du caniveau. « Touche pas à ça !» hurla une voix qui résonna dans la ruelle. Le commissaire Paturel, suivi d'une bonne dizaine d'agents en civil, pénétra à son tour dans la ruelle. Tous avaient les gestes mécaniques de type mal réveillé que l'on vient de tirer du lit. « Laisse ce poignard tranquille, Jérémy !» continua le commissaire Paturel. « À mon avis, cela pourrait bien être une pièce à conviction de premier choix. On ne va toucher à rien et laisser les scientifiques faire leur boulot. » Mézinguel se releva, vexé, mais n'osa pas répliquer au commissaire. Gustave Paturel se dirigea vers la journaliste. « Mademoiselle Abruzzé, toujours dans les bons coups, est-ce que je vois ?» Maline Abruzzé et le commissaire Gustave Paturel s'étaient souvent croisés dans le passé. Une vieille complicité les unissait. Le commissaire, malgré l'heure tardive, afficha une mine réjouie. « Si c'est pour me fournir clé en main le meurtrier du jeune Mungaraï, mademoiselle Abruzzé, je vous pardonne volontiers de m'avoir fait réveiller en pleine nuit, moi et mes enfants. » « La psychose va peut-être retomber maintenant. »« Vous le connaissez ?» demanda Maline en désignant son agresseur. « Oh oui, Daniel Lovici est un client fidèle, comme on dit. Petit dealer et toxicomane, sans domicile fixe. À part Bonne Nouvelle, bien entendu, où il passe la moitié de son temps. Mais c'est la première fois qu'il est mis en cause dans une affaire d'agression à main armée. Il va falloir m'expliquer ce que vous faites là, mademoiselle Abruzzese. Maline se sentait épuisée. Elle avait froid. Le commissaire Paturel le sentit et la laissa récupérer. Il regarda les gyrophares tourner dans la ruelle, les scientifiques s'activer. Il respirait mieux maintenant. La chance avait tourné. Il le savait, d'expérience. Il tenait son coupable idéal. Son suspect à jeter en pâture à la presse. Son meurtrier présumé. Pour rassurer le préfet et toutes les autorités. Une agression à l'arme blanche en pleine nuit n'était pas si fréquente. Lovici avait le profil rêvé. Si en plus son poignard était celui qui avait servi à poignarder le jeune Mungaraï, le commissaire Paturel se réjouissait à l'avance de pouvoir passer une fin d'armada beaucoup moins stressante.